Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Après la conquête des mers, jadis, il y eut, il n'y a pas si longtemps, la conquête de l'air, avant celle de l'espace. La conquête de l'air. Le vieux père Jules Verne avait raison, disait Jacques Bergier, au milieu des années 50. Et peut-être, disait-il aussi, le monsieur au chapeau mou que nous croisons dans la rue est-il un inspecteur galactique qui est venu nous juger ? Science-fiction, rien d'autre. Attention, le robot pourrait devenir le prochain archétype du surhomme. Se retournerait-il contre nous ? Air connu, inquiétude connue et toujours d'actualité. Nous n'avons pas encore la réponse. Plusieurs décennies après la première diffusion de l'émission qui vient, l'une d'une série consacrée aux quatre éléments. C'était le 15 avril 1956 sur la chaîne nationale.
Voici le monde. La radiodiffusion télévision française vous invite à écouter une émission de Pierre Barbier et André Franck, consacrée aux quatre éléments, et présentée par les auteurs, Voici le monde. Aujourd'hui, la conquête de l'air. Participent à l'émission Alexandre Arnoux de l'Académie Goncourt, Jacques Bergier, Paul Chollot, Pierre Duverger, chef du centre météorologique d'Orly, Pierre Delatille et André Virel. François Chaumette et Bernadette Lafont liront des textes de Guy Merci, Victor Segalen et Pierre-Jean Jouve. Assistante de production, Marie-Denise Vanda. Production et réalisation, Pierre Barbier.
Au seuil de cette troisième émission sur l'élément air, il n'est plus question d'analyser la composition de cet élément, mais plus exactement de voir quelle est une phase de son comportement que nous allons tout de suite demander à M. Duverger de définir.
Qu'est-ce que la météorologie, Monsieur Pierre Duverger ?
La météorologie est l'étude des phénomènes ayant leur siège dans l'atmosphère. Ces phénomènes, ayant des répercussions directes et immédiates sur les conditions de vie au sol, présentent pour chacun un intérêt permanent. Ce n'est pas sans difficulté, cependant, que la météorologie s'est taillée une place parmi les disciplines scientifiques, car bien des problèmes qu'elle pose demeurent encore obscurs. Dès maintenant, toutefois, elle mérite mieux que les quolibets des chansonniers ou que le scepticisme du public qui en ignore à peu près tout. Il ne la connaît guère, en effet, que sous son aspect le plus délicat, à savoir la prévision quotidienne du temps. Or, il convient de remarquer que la météorologie est dans ce domaine dans une position très particulière, en ce sens qu'elle est la seule science à laquelle on demande de prévoir l'évolution de phénomènes qui échappent encore au contrôle du laboratoire, à la rigueur des calculs scientifiques et à la possibilité de toute modification par une intervention humaine. Il fallut attendre la seconde moitié du XIXe siècle pour que l'invention du télégraphe permette la création d'une méthode de travail qui devait amener l'actuel développement de la météorologie. C'est à Le Verrier, qui était alors directeur de l'observatoire, que revient le mérite d'avoir organisé le premier réseau d'observation à la suite d'un tragique incident. Le 14 novembre 1854, une violente tempête s'abattait sur la flotte franco-britannique qui participait à la guerre de Crimée et provoquer la perte du vaisseau français Henri IV. Le Verrier montra que cette tempête était la même que celle qui, deux jours plus tôt, avait amené le naufrage du Royal Charter dans le canal de Saint-Georges, et déterminé d'importants dégâts sur les côtes d'Europe occidentale. Il en déduisait que l'on aurait pu, avec un réseau de renseignements suffisant, suivre la marche de ce cyclone, et par suite prévenir en temps utile les bâtiments qui en avaient souffert. Dès l'année suivante, Le Verrier concentrait régulièrement à Paris les télégrammes résumant les observations faites à une heure fixe par un choix de stations d'Europe occidentale munies d'un équipement standard. Ces observations étaient reportées sur des cartes de l'analyse desquelles on déduisait une évolution probable, c'est-à-dire une prévision. Cette méthode est encore celle qui est utilisée actuellement. Mais il ne suffisait pas de connaître ce qui se passait au sol. Il était vite apparu indispensable de savoir ce qui se passait en altitude. Ceci devint possible à partir de 1935, avec l'utilisation pratique de la radiosonde, dont le prototype fut expérimenté par R. Bureau en 1927, et qui consiste, rappelons-le, en un émetteur radio attaché à un ballon et émettant des signaux indiquant aux différentes altitudes la pression, la température et l'humidité de l'air. À l'heure actuelle, le monde est recouvert d'un réseau de stations de radiosondage qui permettent de déterminer à heure fixe la structure de l'atmosphère et de suivre ainsi les déformations du champ d'altitude. Ce réseau est cependant trop lâche encore pour satisfaire pleinement aux besoins des météorologistes. Mais le progrès se heurte en la matière à des difficultés d'ordre financier.
Tout ceci nécessite évidemment une organisation. Comment est-elle née ?
Bien sûr, la France est, grâce à Le Verrier, le premier pays qui bénéficia d'un service météorologique organisé. D'abord rattaché à l'Observatoire de Paris, il en fut séparé en 1878, date à laquelle fut créé le Bureau central météorologique, qui prit le nom, en 1921, d'Office national météorologique. Enfin, en 1945, l'ensemble de tous les services de France et d'Union française étaient rassemblés au sein de la météorologie nationale. Les autres pays ont généralement suivi une évolution identique, mais il était indispensable d'organiser et d'harmoniser les efforts de chacun. C'est pourquoi, dès 1878, fut créée l'Organisation météorologique internationale, qui se plaça plus tard sous l'égide de la SDN. On put alors décider l'utilisation internationale d'un système de codes, de symboles, de transmissions, etc.
La prévision est donc, d'après vous, une sorte d'extrapolation, en somme, le passage de données multiples à des données à une donnée unique.
Ce n'est pas si simple, et c'est dommage, car la tâche du prévisionniste serait singulièrement simplifiée. Il faut se représenter que les zones de mauvais temps sont essentiellement liées à des tourbillons à grande échelle, qui sont des perturbations accidentelles de l'écoulement de l'air autour du globe. Or, la naissance, l'évolution et la trajectoire de ces perturbations sont fonction de la rotation de la Terre, et par suite de la latitude, de la température, du relief, de la force du vent et d'autres facteurs encore. Un pas décisif pour la prévision fut franchi il y a 35 ans environ, quand une équipe de physiciens norvégiens, sous la haute autorité du professeur Bjerknes, montra que l'atmosphère était en fait composée de masses d'air, dont les propriétés physiques varient avec leur origine et leur évolution, mais qui ne se mélangent pas entre elles. Entre ces masses d'air existent des zones de contact assez étroites, appelées surfaces frontales. C'est sur ces surfaces de discontinuité que se produisent les perturbations. Toutefois, l'apport le plus spectaculaire de ces dernières années réside dans la découverte du jet stream. On appelle ainsi une bande étroite de vent très violent qui se situe généralement juste au-dessous de la stratosphère et qui, tel un mince ruban, tourne autour de la Terre aux latitudes moyennes. Ces vents, qui peuvent atteindre 700 km/h, sont d'ailleurs en relation étroite avec la formation et la trajectoire des perturbations des régions tempérées. La météorologie ne peut que progresser, peut-être même assez rapidement. J'ai déjà dit que les équations différentielles du mouvement des particules atmosphériques ne pouvaient être intégrées en pratique dans des conditions satisfaisantes. La mise au point des machines à calculer électroniques remet ceci en question, et les essais en cours devraient permettre de déterminer des cartes d'altitude prévues pour des échéances dépassant 48 heures avec une bonne précision. Ce n'est là qu'un début, et les cartes d'altitude n'indiquent pas automatiquement les conditions au sol. Mais cette méthode d'approche, beaucoup plus rigoureuse que celle utilisée jusqu'à maintenant, est des plus prometteuses et rapprochera la météorologie des sciences exactes. L'homme pourra un jour modifier à sa convenance les éléments météorologiques. Les essais de pluie provoqués sont dans ce sens un premier pas encore bien timide. Je plains d'ailleurs les météorologistes de demain qui devront satisfaire à la fois l'agriculteur qui désire la pluie et le syndicat d'initiative qui aspire au ciel bleu, et qui auront en outre à harmoniser les desiderata des divers pays.
Dans cet ordre d'idées, l'une des manifestations les plus spectaculaires est certainement le passage d'un cyclone. Voici une page extraite d'un livre, Ce ciel où nous naviguons, de Guy Marchi, qui relate une expérience assez extraordinaire.
Dans l'après-midi du 22 juin 1928, entre 3 et 4 heures, je remarquai un nuage en forme d'ombrelle à l'ouest et au sud-ouest. D'après son aspect, je conclus qu'il devait contenir une tornade. L'air était affecté de ce poids oppressant qui précède presque toujours ce cataclysme. Tout de suite, je vis que mes déductions étaient correctes. Trois tornades pendaient de la base noire et verdâtre du nuage, l'une était dangereusement proche, et selon toute apparence, elle se dirigeait vers le lieu où je me trouvais. Je rassemblais en hâte toute ma famille dans notre abri anticyclonique. Je m'apprêtais à entrer à mon tour et à fermer la porte, quand l'idée me vint de jeter un dernier coup d'œil au nuage qui approchait. J'en avais déjà vu un certain nombre et je n'étais pas disposé à perdre la tête. Pourtant, le spectacle qui s'offrait à mes regards était impressionnant. Sur le pays plat environnant, aucun obstacle ne gênait mon observation. Seules quelques gouttes de pluie s'échappaient du nuage. Les deux tornades plus éloignées ressemblaient à de grands cordages qui se balançaient sous les nuages. Par contre, la plus proche avait la forme d'un entonnoir et elle était entourée de nuages déchiquetés. Elle paraissait plus importante que les autres et elle était située au centre. Le grand dôme cumuliforme la surplombait directement. Tranquillement, le nuage avançait. Sa queue s'élevait graduellement au-dessus du sol. Je ne restai probablement devant ma porte que quelques secondes, mais j'étais si captivé qu'elles me parurent interminables. Enfin, l'extrémité touffue de l'entonnoir passa juste au-dessus de ma tête. Tout avait alors le calme et l'immobilité de la mort. Je perçus une forte odeur de gaz et j'eus l'impression que ma respiration allait s'arrêter. Alors retentit, issu du fond de l'entonnoir, un hurlement sifflant. Je levai les yeux et, à mon étonnement, je pus plonger droit mon regard dans le cœur de la tornade. Au centre de la cheminée se trouvait une ouverture circulaire qui pouvait mesurer 20 ou 30 mètres de diamètre et qui montait jusqu'à 800 mètres d'altitude, si tant est que les circonstances m'aient permis d'en juger. Cette ouverture avait en guise de cloison des nuages qui tournoyaient. Le tout était illuminé par des éclairs ininterrompus qui zigzaguaient d'un côté à l'autre. Sur les bords du grand tourbillon, de petites tornades se constituaient et se défaisaient sans cesse. Elles essayaient de se frayer un chemin autour de la cheminée. C'était elles qui sifflaient. Je remarquai que la rotation du grand tourbillon s'effectuait dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Quelques petites colonnes de torsion, par contre, tournaient de gauche à droite. L'ouverture était creuse. Pourtant, il y avait quelque chose que je ne pus pas définir exactement. Je suppose que c'était un nuage de vent détaché, peut-être la contrepartie tornadique de la paupière d'un ouragan. Cette chose-là ne cessait de monter et de descendre. La tornade ne se déployant pas vite, j'eus donc tout le temps de la voir sous toutes ses formes, intérieures et extérieures, grâce aux éclairs qui l'illuminaient.
Pierre Duverger nous signalait tout à l'heure la découverte du jet stream, découverte extrêmement importante et découverte récente. Je pense que nous pouvons à présent nous appesantir un peu sur certains aspects que je dirais plus pittoresques, en tout cas plus immédiats dans leur expression. Jacques Bergier, voulez-vous nous parler des circonstances dans lesquelles le jet stream a été découvert? C'est une découverte toute récente, n'est-ce pas?
Elle date d'une ou deux années à peine.
C'est cela.
Elle s'est produite lorsqu'on s'est mis à étudier les effets des explosions atomiques.
Oui.
Les Russes en particulier ont produit en Sibérie des explosions contrôlées qui émettaient des radioisotopes d'une certaine propriété connue. Et ils ont constaté à leur ahurissement énorme que ces radioisotopes se retrouvaient au Congo belge. Il y a une rivière de l'air qui quitte le Congo belge, qui va au pôle Nord et qui retourne au Congo belge, en décrivant une espèce d'ellipse géante dans l'espace.
Oui, c'est assez extraordinaire. Mais alors, on a découvert cela par des engins qu'on a lancés, j'imagine.
On a découvert ça en mettant dans l'air des substances radioactives d'une certaine période, d'une certaine force, et en apprenant ensuite par d'autres savants qu'on les recueillait, car la météorologie et la science de l'air a déjà réalisé son gouvernement mondial. Russes et Américains échangent sur l'air toutes leurs informations.
C'est cela.
Il n'y a aucun secret, aucun rideau.
C'est cela. Mais alors, ces histoires de ballons que nous appelons toujours dans les journaux des ballons-sondes, parce que ça ne veut rien dire, n'est-ce pas, pour le public. Par conséquent, c'est plus
l'histoire
agréable.
L'histoire des ballons, c'est ce que les Américains ont appelé l'opération Moby Dick. Moby Dick, vous vous en souvenez peut-être, c'était la grosse baleine blanche de Melville. Alors, les Américains font d'énormes ballons-sondes ressemblant à la baleine de Melville qui peuvent emporter près d'une tonne de matériel. Ces ballons sont en vol et ils les guident à distance, c'est-à-dire qu'ils les font monter ou descendre à volonté par télécommande de façon qu'ils attrapent telle ou telle rivière de l'air. Ils peuvent envoyer ainsi leur ballon dans n'importe quel coin du monde en photographiant ce qui est en route.
Alors,
il semble, tout au moins M. John Foster Dulles, le secrétaire d'État américain aux Nations Unies, l'a déclaré officiellement dans une conférence de presse, que ce soit ce ballon qui a donné naissance à la fameuse légende des soucoupes volantes.
C'est cela, oui.
Et alors, quelques-uns de ces ballons se sont abattus au-dessus de la Russie, crevés par des météorites ayant explosé prématurément. Et les Russes furieux viennent d'organiser une exposition des photographies qu'ils ont trouvées à bord de ces ballons, lesquelles photographies révèlent leurs secrets les plus chers, aérodrome caché, installation. Comme il y a toute une invasion de soucoupes volantes au-dessus de la France, récemment à Orly, et au-dessus également de l'Amérique, il semble que les Russes, tout en protestant avec énergie, ne se privent pas eux aussi d'envoyer les ballons, ce qui fait que nous devons être observés par des yeux absolument insoupçonnés.
Et qui ne viennent pas de Vénus ni de Mars.
Non. C'est plus prosaïque que ça, mais nous sommes observés.
C'est ça. Et il est très curieux de voir qu'en effet, enfin, cette conquête de l'air, il fallait s'y attendre d'ailleurs, car autrefois il y a eu la conquête des mers et la maîtrise des mers qui, en histoire, a eu une grande importance. Il est curieux de constater qu'aujourd'hui, enfin, et depuis, vous le dites bien, depuis peut-être 2 ans, n'est-ce pas, il y a une lutte pour la conquête de l'air qui n'est pas seulement le nombre le plus important, si j'ose dire, de forteresses volantes, mais également le nombre le plus important de ballons observateurs.
Le vieux père Jules Verne avait raison. Dans 5 semaines en ballon, qui fut son premier livre, il a écrit « La querelle du plus lourd et du plus léger de l'air est absurde. Tous les deux feront des progrès et les hommes qui auront de l'avenir qui auront des machines volantes auront aussi des ballons perfectionnés. » Il avait raison, comme toujours.
Autre aspect du problème de l'air sur lequel nous passerons rapidement, la liquéfaction. C'est un problème qui se pose depuis déjà fort longtemps, depuis plus d'un siècle, puisque en 1823, Faraday fait ses premières découvertes de liquéfaction des gaz. En 1898, la question était à ce point avancée que seul l'hydrogène restait encore à liquéfier. Et l'on sait que James Dewar est arrivé à liquéfier l'hydrogène par une température de moins 205 degrés et sous une pression de 180 atmosphères. Aujourd'hui, la liquéfaction des gaz et de l'air se fait par 3 procédés qui comportent tous les 3 une compression puis une détente. On sait que la liquéfaction des gaz, la liquéfaction de l'air sont utilisées dans de très nombreux domaines de la vie courante. C'est ainsi que la liquéfaction de l'acide carbonique est à la base des boissons gazeuses, la liquéfaction de l'oxygène sert pour le découpage des métaux, la production des pierres artificielles, des pierres précieuses artificielles, et également pour la soudure autogène. L'azote liquide est employé pour fabriquer des engrais extrêmement actifs. Quant à la liquéfaction de l'air, elle a permis d'extraire des gaz rares, tels que le néon, et est-il besoin de rappeler l'utilisation, l'importance du néon dans la vie courante d'aujourd'hui.
L'aviation fut évidemment la conquête la plus spectaculaire et la plus populaire, dirais-je, de l'air. Il est inutile de rappeler les expériences des frères Montgolfier, mais, chose assez amusante, je retrouve une chanson, un vaudeville de la fin du siècle de Louis XV, qui nous montre un rêveur parlant d'aller explorer les domaines inusités, dirais-je, des hautes atmosphères dans un vaisseau volant. Je ne vous rappelle pas ces dessins assez extravagants que nous avons tous regardés, sur lesquels nous avons rêvé du temps de notre enfance, que l'on trouvait dans les vieux illustrés qui traînent encore dans les albums de famille, dans les greniers de famille. Enfin, au début de ce siècle, alors que les savants disputaient et s'injuriaient même parfois sur la possibilité de voler, des expérimentateurs, plutôt que des savants, enfin firent les premiers bonds sur les premiers aéroplanes. Dans Bilan provisoire, Alexandre Arnoux a raconté avec beaucoup d'humour, comme il sait le faire, et avec beaucoup de précision aussi d'ailleurs, l'expérience d'hommes qui, au cours de ce demi-siècle, avaient vu se transformer le monde dans lequel nous vivons. Et évidemment, il y a une transformation complète qui nous intéresse beaucoup, qui nous intéresse au premier chef, dirais-je, ici, c'est la transformation des moyens de la conquête de l'air, car, mon Dieu, évidemment, il y avait eu Monsieur de Montgolfier, il y avait bien quelques ballons autrefois, mais enfin, ce début de XXe siècle a vu la véritable conquête de l'air. Est-ce que cela a surpris beaucoup les gens ?
Eh bien, il est assez difficile de répondre et de retrouver les sentiments anciens. Mais je vais essayer de le faire. Entre 1900 et aujourd'hui, c'est-à-dire dans le cours de ma vie consciente, j'ai assisté, comme tous ceux de ma génération, à un développement considérable de la vitesse. C'est-à-dire que la vitesse s'est plus transformée dans ces 50 ans-là qu'elle ne l'avait fait de Jules César à Napoléon, par exemple.
C'est cela.
Et à l'origine de notre adaptation à ce mouvement prodigieux, il y a, je le répète, c'est une marotte chez moi, la bicyclette. Les garçons de mon âge ont appris à monter à bicyclette, avec une certaine difficulté du reste. Et ils ont découvert la route, le monde. Ils sont évadés du cercle étroit de la petite ville. Ils ont brisé peut-être les cadres trop durs de la famille par la bicyclette. Ils ont appris en même temps les principes les plus simples, les plus élémentaires de la mécanique. La bicyclette existant, l'automobile a peu surpris. On a fait en somme que changer le moteur humain par un moteur très perfectionné. Plus tard, l'espace étant conquis, les vitesses étant devenues très grandes, il semblait presque naturel que toutes ces conquêtes s'étendissent relativement assez rapidement à l'air. Et si nous avons été enthousiasmés par l'aviation, nous n'avons pas été tellement étonnés.
Oui. Et les premières expériences, si je puis dire, de Santos Dumont ou autre.
Oui, je me souviens avoir suivi ces expériences dans les journaux du temps de Wilbur Wright, Santos Dumont, Farman, les héros primitifs de l'aviation.
Oui.
Tout cela s'est déroulé entre 1900, un peu avant 1900, même 96, et 1914.
Oui.
Mais l'aviation, à ce moment-là, était à un état, comment dirais-je, de formation primitive.
Oui, bien sûr.
On comptait 1000 mètres de plus parcourus vol plané ou en vol avec moteur ou en vol fermé. Tout cela paraissait extraordinaire. L'aviation est vraiment entrée dans les mœurs et dans l'esprit du public qu'à partir de 1914 et de la guerre. Car la guerre de 1914-18, comme toutes les guerres, a développé prodigieusement les moyens techniques et favoriser leur progrès.
Bien sûr.
À partir de 14, l'aviation entre dans le domaine public. Mais c'est encore un domaine de héros. Et il me semble, si l'on voulait fixer des dates, que l'aviation n'entre véritablement dans la partie courante qu'à partir de 1927. Vous me direz pourquoi ? Parce que Lindbergh a traversé l'Atlantique À ce moment-là, j'ai assisté, il me souvient, à la réception et à l'enthousiasme de la place de la Concorde en 1927, au moment de l'arrivée de Lindbergh à Paris. C'était un spectacle indescriptible. À partir de ce moment-là, la période épique, la période d'aventure est close. Et on fera sans doute beaucoup de progrès encore, mais des progrès, pour ainsi dire, de détail.
C'est ça, hein.
L'aviation est entrée dans le courant des habitudes, des moyens de locomotion, des moyens de transporter le courrier, et elle a perdu son caractère absolument merveilleux. On peut dire, d'une certaine façon, qu'avant 27, 27 étant une date un peu arbitraire,
oui,
mais
bien, c'est
que je donne pour simplifier les choses, on peut dire qu'à partir de 1927, le voyageur d'avion, qui était un téméraire, est devenu un usager.
C'est cela.
Le pilote d'avion, qui était un aventurier, est devenu une sorte de chef de train.
C'est ça, oui.
Et que l'élément air, qui se distinguait tellement des trois autres éléments que l'homme avait domptés jusqu'alors, a perdu son caractère particulier et a pris son rang modeste parmi les trois autres éléments à égalité de considération.
Les choses vont très vite. Aujourd'hui, nous en sommes au mur du son, mais au fond, qu'est-ce que le mur du son ? Pierre Delatille a à son actif de nombreux livres de vulgarisation scientifique et c'est à lui que nous allons demander d'essayer d'exprimer clairement pour nos auditeurs tout d'abord ce qu'est le mur du son. Enfin, évidemment, l'exprimer par image, l'exprimer très rapidement.
Le mot d'image me plaît beaucoup car c'est par une simple analogie aquatique que je voudrais le faire sentir, non pas l'expliquer. Imaginons que nous sommes au bord d'un étang et que nous nous amusons à jeter des pierres. Nous verrons des ébranlements se propager à la surface de l'eau.
Ce sera de grands faits de faire des ronds.
Eh bien, ces ronds se propagent avec une certaine vitesse.
Ouais.
Cette vitesse est exactement l'homologue de celle des ébranlements de l'air que nous appelons son.
Oui.
Voilà donc la vitesse du son matérialisé, celle des ronds dans l'eau, sur l'eau. Maintenant, imaginons qu'un cygne traverse cet étang, lui aussi crée des ébranlements, mais tandis que pour la pierre, les ébranlements allaient au-delà de ce qui les avait causés, le cygne, lui, va plus vite que l'ébranlement, il va plus vite que les ronds dans l'eau.
C'est ça.
Au lieu de faire des ronds, il fait des V.
C'est ça, oui.
Ce sillage en V est exactement l'homologue de l'onde de choc au point de vue aérodynamique.
C'est ça.
Et on se rend bien compte que le poitrail du cygne attaque de face, de front, une nappe qui n'est pas encore perturbée. Dans les avions subsoniques, attaque des zones d'air qui sont déjà en turbulence, qui sont déjà averties de l'arrivée, tandis que supersoniques, ils arrivent coupés directement comme un tranchant, un air qui n'est pas averti de leur présence et qui offre une plus grande résistance.
C'est cela. Et c'est à ce moment-là, enfin au moment où l'on passe d'une zone dans l'autre, si je puis dire, que l'on peut dire qu'on a franchi le mur du son et qu'on entend le bang-bang. Et je crois que ce bang-bang, qui a beaucoup étonné les populations récemment, est une chose qui a été découverte il y a déjà un certain temps, n'est-ce pas ?
En fouillant des bibliothèques, j'ai trouvé dans un annuaire très docte le mémorial de l'artillerie de marine en 1885, vers les années 85 à 89. Ces gros tomes ont été pleins de discussions au sujet exactement de ce que nous appelons le bang aujourd'hui. C'était des artilleurs de marine qui, expérimentant sur la propagation des ondes sonores, des ondes sorties d'une bouche à feu, d'un canon, au polygone de Gabre en Bretagne, ont découvert que, à leur grande surprise, la propagation présentait des anomalies. On a fini par comprendre que c'est parce qu'ils prenaient pour l'onde de bouche, pour le coup du canon lui-même, quelque chose qui n'était pas le coup de canon, ce coup de canon n'étant pas audible de l'endroit où ils étaient. C'était une détonation produite par l'obus qui passait à vitesse supersonique dans l'air, en dessus d'eux.
C'est tellement vrai qu'on a formulé alors une loi que tout mobile supersonique déclenche des détonations. Et ça a dormi pendant 50 ans ou 40 ans dans des vieux bouquins poussiéreux. Et à cause de cet oubli, en 1914, des hommes sont morts. Je m'explique. Le repérage par le son des canons ennemis croyait pouvoir tabler sur le point de départ des coups de l'adversaire. Et il disait, le canon est donc là. Et il tirait là. Et là, c'était sur les lignes françaises. Alors, on s'est ému, on a demandé à un grand savant qui est mort l'an passé, Esclangon, qui est un astronome et un physicien, d'étudier la question. Il a redécouvert lui-même les histoires des artisans de marine de 30 ans avant. Il est allé expérimenter au même endroit au polygone du Gabre, et là, il a réétabli la loi. Depuis, les artilleurs savent pertinemment qu'il y a l'onde de bouche, et il y a une autre onde qui est produite par l'obus au passage dans l'air. Mais les artilleurs ne sont pas les aviateurs, nous mourons dans un monde à cloisons étanches de ne pas savoir ce qui se passe à côté, et les aviateurs s'étonnent aujourd'hui que leurs avions déterminent des bangs. Eh bien, il n'y a pour moi aucun mystère, c'est exactement le même phénomène formulé
en 1885. Mais alors, je voudrais vous poser une question, en dehors naturellement de cet exposé que je crois très clair pour tous. Il vous semble, m'avez-vous dit, que actuellement nous ayons atteint une sorte de limite de vitesse. Je m'explique, non pas une limite théorique, mais pratiquement une limite que nous ne dépasserons pas parce qu'il n'est plus prudent, parce que certaines conditions de résistance humaine déterminent cette vitesse.
Eh bien, il me faudrait assez de temps pour développer cela, car mon idée que j'ai, après avoir étudié un an la question pour un bouquin que je suis en train de finir, au début, je pensais que, moi aussi, comme tout le monde, que le progrès de la vitesse serait indéfini, et puis j'ai été obligé de me rendre compte que non. Je vais encore là me servir d'une image.
Ouais.
Sur Terre, les autos peuvent aller à 250, à 300, à 350, et pourtant, nous n'allons pas à plus de 130, pratiquement 130, 140. En Amérique, ils limitent même beaucoup moins, je crois.
C'est ça, oui.
Vous voyez donc bien qu'il y a une vitesse théorique possible et une vitesse pratique. Eh bien, la vitesse pratique, pour toutes sortes de raisons, il faut la situer aux environs de 1100 km/h. Ce n'est pas un chiffre dit en l'air, c'est la vitesse à partir de laquelle les militaires, qui eux pourront aller beaucoup plus vite, mais à partir de cette 1100 km/h à peu près, les militaires revêtent des combinaisons anti-jets et toutes sortes de harnachements.
C'est ça.
Eh bien, cela prouve que le corps humain n'est pas fait pour aller au-delà, non pas de la vitesse en soi, mais des accélérations qu'elle impose. Et dans ces conditions, je crois que dans les avions commerciaux, et pour le commun des mortels, pour nous, qui n'avons pas envie de torturer notre corps, il y a à peu près, au moment où eux revêtent leur combinaison, une limite pour les hommes.
C'est cela. On pourrait donc penser que, comme pour la voiture, d'ailleurs je crois que l'analogie est assez exacte, comme pour la voiture, on entrevoit une vitesse, si j'ose dire, moyenne, commerciale, moyenne, à peu près stable, n'est-ce pas ? Et que c'est dans un autre sens que s'orienteront les recherches techniques, les perfectionnements.
Avant tout,
des transports, j'entends bien, des transports aériens. C'est ça, décollage vertical.
Parce qu'actuellement, l'aviation actuelle n'est peut-être plus de l'aviation telle que l'entendaient les pionniers. C'est un véritable balistique, on lance un avion d'un terrain préparé et il ne peut atterrir qu'à un terrain préparé. Ce n'est pas la liberté totale dont rêvaient les pionniers.
Au-delà de ces vitesses commerciales, quelles sont les perspectives de la science ? À ce propos, Murchie écrit :
il est certain que nos larges recherches actuelles prennent une direction surprenante. De nouveaux alliages sont expérimentés pour la chair de poule de chaleur. Cette tendance qu'a le métal à s'amollir et à s'étirer lorsque le frottement élève la température de sa peau de centaines de degrés, ainsi que pour la palpitation de vitesse, une vibration destructive qui se déclenche autour de Mach 2. Et enfin, pour la résistance aux gouttes de pluie, lesquelles, à des vitesses supersoniques, ont la violence de balles explosives. Des projectiles guidés naviguent déjà par radar et par télévision, voire par une observation mécanique du ciel. Leurs ailettes, dont la coupe transversale est mince comme une lame de rasoir et qui sont en losange, les dirigent, les roulent, les élèvent comme s'ils étaient des avions. Pour voyager dans la stratosphère, certains ont des moteurs à réaction. Pour les routes vides de l'ionosphère, d'autres sont munis de moteurs futuristes de fusées. Ces oiseaux, comme les appellent les spécialistes des engins téléguidés, prennent l'air avec un bruit indescriptible qui combine un rugissement à faire glacer les eaux avec les piaulements de 1000 aigles en colère. Plus haut encore sur le diapason, il y a la vibration ultrasonique d'accompagnement qui, affirment les témoins, donne l'impression de presser directement sur le cerveau sans passer par les oreilles. Une fois décollés, les oiseaux disparaissent dans un éclair aveuglant. Il faut les suivre au télescope, à la télécaméra, au radar, par radio, par télévision. De tous ces comptes rendus automatiques, celui qui me fascine le plus est la voix. La voix audible qui est enregistrée au magnétophone. Elle diffuse les instruments à bord de l'engin. Mystérieuse symphonie où les altimètres, les thermomètres, les indicateurs de vitesse, les compteurs de rayons cosmiques s'expriment tous ensemble musicalement. D'abord, vous entendez la paisible harmonie de l'oiseau au repos sur sa plateforme de lancement, les tonalités profondes ou aiguës des instruments qui font constamment leur rapport, on dirait des cornemuses. Et voici que se mélangent dans ce bourdonnement les instruments à comptes rendus intermittents. Cloche cosmique, harpe magnétique. Quand l'engin s'élance, alors la musique change. Les violoncelles des thermomètres se tendent jusqu'à l'aigu au fur et à mesure que la chaleur de combustion augmente. Les bassons de la pression insistent plus lourdement. À la mélodie des carillons s'ajoutent les dissonances surtendues des ailettes de commande qui luttent pour maintenir l'oiseau dans la bonne direction. Sur toute la longueur, la vibration ressemble à un grondement guttural et le roulement rythmé de l'engin à une mélopée plaintive. C'est seulement lorsque le svelte appareil s'est libéré de l'atmosphère terrestre que les dissonances se fondent et s'évanouissent. Dans le vide de l'espace, il n'y a pas d'air pour le rouler, pas du tout de vibration externe, les ailettes se relâchent dans le néant. Le chant de l'oiseau passe d'une symphonie en mineur à une symphonie en majeur. Il exulte au sein de sa nouvelle liberté, il roucoule parmi les astéroïdes.
Jacques Bergier est un spécialiste des fusées. Jacques Bergier a l'avantage sur beaucoup d'entre nous de pouvoir lire quatre langues, le russe, l'anglais, l'allemand, le français et peut-être quelques autres encore. Pendant la guerre, Jacques Bergier, faisant partie d'un réseau de renseignements, avait découvert les préparatifs allemands de V1 et de V2, c'est-à-dire les préparatifs allemands d'envoi de fusées sur l'Angleterre. Le gouvernement anglais refusait de croire au V1, au V2, et ce n'est qu'avec beaucoup de mal que Bergier et son réseau ont pu faire admettre leur thèse, qui malheureusement s'est vérifiée quelques mois plus tard par le Blitz sur Londres. Je ne m'étends pas sur cette partie de l'activité de Bergier, qu'il a raconté longuement dans un livre publié il y a quelques mois chez Artaud. Et donc, Jacques Bergier est l'homme qui, je crois, actuellement peut parler avec le plus de compétence de ce problème extraordinaire, de cette révolution extraordinaire qu'est la fusée dans notre monde moderne. La fusée, me disiez-vous, est aussi importante que la découverte de la roue.
Certainement. La fusée nous ouvre tout l'espace. Or, les chemins qui passent par l'espace sont plus courts que les chemins que nous pouvons emprunter sur cette Terre. Dans l'espace, il est possible de passer de Paris à New York en montant très vite, en redescendant très vite en une demi-heure. Ce que je dis là, ce n'est pas une utopie. C'est le projet de la fusée pilotée de la marine américaine actuellement en chantier. Très bientôt, cette année peut-être, un homme aura quitté New York et se posera à Orly. Le trajet aura duré 25 minutes. Voilà ce que la fusée.
C'est cela. En somme, si j'ose dire très très grossièrement, il s'élèvera assez haut pour laisser la Terre tourner et pour redescendre à un point de chute déterminé.
C'est ça, l'air ne lui aura opposé aucune résistance parce qu'il l'aura quitté et qu'il aura fait le gros de son trajet à l'abri de la résistance de l'air.
Ce qui était extraordinaire dans cette aventure, c'est que nous dépassons l'élément air. Non seulement il s'agit de la conquête de l'air, mais c'est pire que cela, c'est réduire l'air en esclavage, le mater. C'est bien le cas en ce qui concerne votre fusée projetée. Et vous croyez que dans quelques années, ce sera possible?
Certainement. Ceux de nos auditeurs qui ont des postes de télévision verront, eux, je dis bien eux, pas leurs descendants lointains, oui. Eux, ils verront, transmis par une fusée, l'autre côté de la Lune. Ce qu'un homme n'a jamais vu, ce dont des hommes comme Jules Verne, Ronnie Aîné ont seulement rêvé, eh bien eux, confortablement calés dans leur fauteuil, devant le récepteur de la télévision, ils verront.
Tout cela évidemment est extraordinaire, et pourtant tout cela, vous nous l'annoncez comme extrêmement proche. Mais on parle beaucoup, et je crois que c'est aussi une de ces transformations assez imminentes, d'une sorte de satellite artificiel, et peut-être de plusieurs satellites artificiels qu'on lancerait autour de la Terre.
Il y aura trois étapes de satellites. D'abord, les satellites qui ne seront pas habités, simple boule, comportant des instruments et nous transmettant des renseignements. Ensuite, les satellites habités, où il y aura des hommes qui travailleront dans un laboratoire où la pesanteur n'existera plus. Et puis ensuite, troisième étape, les satellites boucles, celui qui simplement, au lieu de tourner autour de la Terre, décrira une boucle qui le fera passer également autour de la Lune, comme l'obus de Jules Verne. Et les caméras qui seront à ce moment-là nous transmettront les images.
Et vous pensez que tout ceci est pour un avenir proche? Par exemple, le premier satellite,
57. Satellite habité.
Mon Dieu, mais c'est très vite, 57, c'est l'an prochain.
Satellite habité 62, voyage autour de la Lune 65.
Eh bien, vous nous réservez des surprises. Mais vous me disiez aussi, avant de nous installer à ce micro, qu'il s'agirait bientôt d'aller dans les astres.
Il en est question, ou tout au moins dans les planètes.
C'est ça, dans les planètes.
Les astres, c'est-à-dire les étoiles, ne sont pas encore à notre portée,
oui,
mais les planètes, Mars, Vénus, semblent l'être.
Et vous croyez qu'il est intéressant d'aller dans Mars, par exemple, que c'est un pays habité? Vous croyez que... Il y a les canaux, oui, mais enfin, les canaux, qu'est-ce que c'est? C'est peut-être simplement une striure que nous apercevons d'ici.
Eh bien, là est justement un fait curieux que je pense vous être le premier à vous annoncer. Edison Petit, à Flagstaff, en Amérique, a réussi à obtenir tout récemment, en janvier de cette année, des photos extrêmement claires de Mars avec un véritable réseau de striures. Une machine mathématique a pu comparer ce réseau avec des réseaux obtenus au hasard, par exemple des craquelures sur un vieux vase pris dans un musée. Eh bien, ce n'est pas le même. Ça rappelle plutôt quelque chose qui n'est pas fait par le hasard. De sorte que finalement, après tout, peut-être Lowell avait-il raison, peut-être Ronnie Flammarion avait-il raison, peut-être y a-t-il ou y a-t-il eu de la vie sur Mars.
La conquête de l'air fait ressurgir toute une mythologie dont l'expression est souvent assez grossière. Pensez aux images naïves du Superman. Toujours en quête d'extraordinaires aventures où s'exprime le désir d'une volonté de puissance moderne. Nous avons parlé de l'importance du rêve de vol avec Gaston Bachelard, mais au-delà du schéma décrit par Freud, nous voyons poindre autre chose qui dépasse le simple survol à basse altitude, dirais-je, de notre monde quotidien. Avant de parler de cette étonnante chanson de gestes, écrite par anticipation en quelque sorte, qui est formée par la littérature de science-fiction, nous voudrions, avec Paul Chollot, rappeler ce que ce rêve a de profondément enraciné dans le psychisme de l'homme.
Le concept du héros ou du surhomme apparaît comme une disposition innée de l'esprit. Et depuis des temps immémoriaux, il n'est pas une mythologie où il ne se manifeste. Légendes et fables du folklore universel pullulent d'images aux couleurs vives et d'un trait souvent grossier, montrant ces êtres d'exception auprès desquels l'homme, prisonnier de sa condition, découvre les voies du dépassement et de l'exaltation. Et il s'agit là d'un phénomène psychique que les psychanalystes désignent sous le terme de compensation, et l'on ne s'étonnera pas que l'un d'entre eux, le docteur Jung, se soit penché spécialement sur ce concept. Selon lui, notre vie mentale ne dépend pas seulement de processus conscients et inconscients qui nous sont propres, mais encore, et c'est en cela qu'il se distingue de Freud, d'un inconscient collectif. Cet inconscient collectif, toujours selon lui, nous est légué héréditairement par l'espèce et est représenté par ce qu'il appelle des images primordiales ou archétypes qui sont, nous dit-il, comme autant de canevas de base à partir desquels se forment les plus grandes et les plus belles pensées de l'humanité. Et parmi ces archétypes, Jung désigne les anges, les démons, les magiciens, les dragons et les surhommes. Et il ajoute d'autre part que chaque individu ou groupe d'individus peut contribuer à enrichir l'inconscient collectif de possibilités nouvelles. Rien n'interdit donc de faire du robot une de ces possibilités. N'est-il pas en effet l'aspect le plus moderne du mythe du surhomme, avec cependant cette particularité par rapport à ses devanciers, qu'il s'agit d'un surhomme créé par les propres mains de l'homme? Mais ce nouveau héros, cet esclave, disons, de génie, qui est notre œuvre au sens le plus complet du terme, risque, tel le golem de la légende juive, de se retourner contre nous et, dans le même temps qu'il favorisera notre besoin de dépassement, il peut aussi faire naître en nous un terrible sentiment de culpabilité. Le poète Pierre-Jean Jouve en a eu conscience.
Fuis-les, fuis-les, cet ouragan de poux et de moteur, robot, menteur à leur influx même, et néant. Car c'est l'heure où la beauté rejoint les seins noirs du malheur, l'heure où s'ouvre le pauvre démon qu'ils ont choisi pour effacer l'éternité par leur tic-tac de Vézanie et pour nier le jour de l'homme. Alors, dans son honneur naissant, dans son supplice véritable et son vrai temps.
Il est possible que dans quelques siècles, nos descendants nous jugent comme des êtres d'une bien grande naïveté. Eh bien, il est évident que nous avons dépassé le domaine de la conquête de l'air pour arriver au domaine de la conquête de l'espace. Qui dit conquête de l'espace pense immédiatement à tout un courant de littérature moderne, très moderne, et qui a, je crois, conquis de très nombreux lecteurs de par le monde. C'est ce courant appelé science-fiction. Courant qui existe aussi bien chez les Russes, chez les Anglais, chez les Allemands que chez les Américains. Je me demande d'ailleurs, Jacques Bergier, s'il n'y a pas malgré tout une différence fondamentale entre les romans de science-fiction russes et les romans science-fiction américains.
Aussi paradoxal que ça paraisse, il n'y a aucune différence. C'est toujours le même thème. Le thème essentiel, c'est celui de la solitude brisée. C'est celui du contact avec d'autres êtres intelligents dans l'espace et dans le temps. C'est l'inverse de Kafka ou de Graham Greene ou de Sartre ou de Camus. Le personnage de Kafka, de Green, de Camus, de Sartre, j'aurais tout aussi bien pu ajouter Dostoevsky, vit dans un monde absurde dont il n'aura jamais d'explication. Le personnage de la science-fiction vit dans un univers vaste où tous nos problèmes ont été déjà résolus. Des civilisations vieilles des dizaines de millions d'années sur des millions de planètes ont les solutions de nos problèmes. Ils nous les apporteront si on leur demande. Peut-être sont-ils déjà parmi nous, peut-être le monsieur en chapeau mou que nous croisons dans la rue est-il un inspecteur galactique qui est venu nous juger, et s'ils estiment que nous avons suffisamment vaincu la guerre, que nous avons suffisamment vaincu la misère, peut-être nous admettra-t-il demain dans la grande communauté des êtres galactiques.
C'est ça, car d'une part il y a des romans de science-fiction qui considèrent que nous sommes visités, comme vous le disiez, n'est-ce pas ? Et il y a aussi un autre courant de romans de science-fiction qui lui considère que l'homme part à la découverte de ce monde galactique.
C'est ça, ce sont les écrivains qui considèrent que l'homme sortira de la Terre, qu'il va conquérir l'univers entier, qu'il va se bâtir un empire dans les étoiles. Ce sont des romans qui se basent sur ces faits scientifiquement établis que notre Terre en a encore pour des dizaines de milliards d'années à vivre, alors que notre culture historique ne date guère que de 6000 ans, et qui pense que nous allons continuer à progresser, que nous allons continuer à grandir, que nous nous élèverons au-dessus de l'homme comme l'homme s'est élevé au-dessus des premiers insectivores, et que des espèces d'êtres surhumains, nos descendants, établiront une énorme civilisation dans les étoiles.
Oui, alors, il y a ici une chose, un point qui me semble important. Dans les romans de science-fiction parus au cours des dernières années surtout, il y a un côté, si j'ose dire, spirit, qui me déplaît un peu, je ne vous le cache pas. En effet, cette communication entre les terriens et les êtres extraterrestres, si vous voulez, se passe sur le plan psychique. Et je ne sais quel côté un peu superstitieux me semble avoir présidé à l'élaboration de ces romans-là. Est-ce que cela se passe toujours de la même façon ?
Non, c'est une fausse impression qui est donnée par le fait qu'en France, on a traduit toutes sortes d'œuvres de bas étage et surtout très vieilles.
Ah
ce courant existait en effet à la fin du siècle dernier avec Wells, qui a écrit aussi bien des science-fiction que d'histoires de fantômes, d'anges dans la merveilleuse visite, d'esprits dans les corps volés, et ainsi de suite. La tendance actuelle, c'est de constater qu'il y a un pont bien réel entre les intelligences et qui est la science. C'est de constater qu'un von Frisch a pu déchiffrer le langage des abeilles. C'est de constater qu'il y a des machines qui traduisent d'une langue à une autre. C'est de construire que les mathématiques jettent un pont entre les intelligences.
C'est cela. Mais alors,
on en arrive à la limite, à la merveilleuse idée de H.P. Lovecraft, par exemple, qu'avec une certaine connaissance extrêmement poussée des mathématiques, eh bien, on irait dans les étoiles sans astronef, par des chemins, par des raccourcis dans l'espace que l'intelligence seule peut découvrir.
C'est cela. Enfin, je dis c'est cela, mais c'est un peu difficile pour un esprit borné comme le mien de trouver par quel chemin, en effet, on pourra aboutir dans l'espace. Il y a un point qui me semble intéressant, cette objection étant dépassée, c'est la redécouverte d'une espèce de, j'allais dire, presque de paradis. André Virel serait d'accord avec moi.
Enfin, depuis que l'homme a commencé la conquête de l'air et justement cette conquête de l'espace, qui date de la conquête du départ de l'histoire, justement, comme disait Jacques Bergier, depuis 6000 ans, en commençant d'abord par ériger les mégalithes, puis les pyramides, il a tourné son regard vers leur ciel, il a identifié son image spiritualiste du ciel et son image spiritualiste du paradis à l'image physique du ciel. Le paradis, l'au-delà, c'est le ciel. S'il touche le ciel avec ses mains, c'est le vieux mythe de la tour de Babel qui est dépassé. L'homme n'est pas foudroyé, le ciel s'ouvre à lui, et dans cette mesure-là, s'agit-il d'ailleurs d'un, d'un matérialisme, je ne sais, car l'homme peut très bien découvrir le paradis dans d'autres voies, à l'intérieur de lui-même, ou comme dit Jacques Bergier, avec une connaissance très approfondie des mathématiques.
C'est cela. Mais il y a quand même une sorte de teuf rationaliste, si je puis dire, qui explique d'ailleurs ce pont qui existe entre la science-fiction russe et la science-fiction américaine.
Exactement. C'est ce qu'on voit dans les beaux livres de Clifford Simak, « Chaîne autour du soleil » que Gallimard vient de publier. On voit une série de mondes vierges que des progrès de la science permettent de découvrir, en quelque sorte dans d'autres dimensions de l'espace. Une série de terres vierges qu'on peut réoccuper et où on peut ne pas recommencer nos erreurs.
Mais je voudrais vous poser la question suivante. Je pense, d'après tout ce que vous nous avez dit, que les romans de science-fiction sont des œuvres littéraires valables. Mais je voudrais vous demander si elles ne sont pas simplement des œuvres littéraires, je veux dire si elles ne sont pas simplement le fruit de l'imagination d'auteurs, de littérateurs. Est-ce que, sur le plan purement scientifique, au moins un certain nombre de ces écrivains de science-fiction sont valables?
Oui. Parce qu'ils sont généralement l'œuvre des savants. Eric Tempelbel est un des plus grands mathématiciens actuels. Isaac Asimov est professeur de biochimie à Harvard. Chad Oliver est professeur d'anthropologie. Efremov est un spécialiste des fusées. Nemtsov est un spécialiste de l'énergie atomique. Ce sont donc l'œuvre des savants qui ont choisi ce moyen-là pour communiquer, pour exprimer leurs espoirs et leurs craintes. Quelquefois, elles les expriment trop tôt. Un roman publié en 1944, L'Orage de Cliff Cartmile, racontait dans le détail la bombe atomique avant que celle-ci ne paraisse et a failli entraîner l'arrestation de l'auteur et de tout le monde par la police américaine. Mais très fréquemment, les auteurs réussissent ainsi à exprimer des espoirs.
À la suite de cette conversation sur une forme moderne de littérature qui prétend d'ailleurs dépasser la simple littérature, la science-fiction, je pense qu'un certain nombre de conclusions s'imposent. La première, la plus importante, celle qui frappera le plus nos auditeurs à la suite de toutes les émissions que nous avons faites sur l'air et que nous venons, par un détour qui semblera assez curieux, nous venons, dis-je, de retrouver l'air en tant que symbole, en tant que signe de l'esprit, et même, il faut le dire, en tant que signe de Dieu. Je ne vous rappellerai pas tout ce que nous avons dit au cours de nos émissions précédentes. Mais je pense que vous serez d'accord avec moi pour constater que ce mouvement moderne de science-fiction, que je crois reposer sur des bases de connaissances solides, Jacques Bergier vient de nous dire que la plupart des auteurs des romans de science-fiction étaient d'authentiques savants, étaient des mathématiciens, des physiciens, qui dans la vie, je dirais efficace, dans la vie courante, dans le monde opérationnel, sont des gens qui ont une importance reconnue. Première remarque, me semble-t-il très importante, les anciens, lorsqu'ils ont imaginé, lorsqu'ils ont édifié une mythologie de l'air, et même une métaphysique, pensaient, croyaient, étaient persuadés, eux aussi, possédaient une connaissance scientifique de cet élément. Naturellement, nous avons dépassé leurs connaissances. Mais enfin, je pense qu'il est tout de même suggestif d'indiquer ici que nous aboutissons au même point que les plus vieux philosophes, à savoir que cet élément que nous respirons chaque jour, l'air, nous pose à nouveau le même problème, même si nos conclusions sont un peu différentes. Autre remarque, certains auditeurs et non des moindres pourront nous faire remarquer que nous aurions pu poser le problème en termes plus purement abstraits. En effet, les éléments, l'air, le feu, la terre, etc., ne sont pas dissociables au point que nous avons dit. Il y a de l'air dans la matière, du feu dans l'atome, et nous avons peut-être pris un parti délibérément anthropocentrique. Cela est vrai. Mais c'est qu'aussi, il me semble bien, que le problème de l'homme qui nous retient ici au fond, le problème de l'homme se situe par rapport au monde qui l'entoure. L'homme, comme disait Claudel, connaît au monde. Il naît avec le monde. Et c'est dans ce sens que nous avons voulu, je le rappelle, indiquer surtout des pistes à suivre et non jamais essayer d'épuiser des problèmes. Si une conclusion devait être donnée à ces trois émissions sur l'élément air, il me semble que nous devrions l'emprunter à un poète. Voulez-vous écouter ce poème quasiment inédit de Victor Segalen ?
Chanti, si pourtant cela était que tu fusses, ô ciel souverain, Seigneur ciel au temple clair, qu'on dit étreignant le bol renversé de l'air, de ta majesté d'azur, de jade et de fer. Véritablement, si tu tiens ce qu'on proclame, étant, voyant tout et partout, et jusque sur le toit du grand vide, encerclant comme d'un mur l'éther spiralé profondément dur et pur, quel dépouillement! Quel prosternement du haut de l'orbe, où mon front règne au séjour de tes sages, sur la triple dalle arrondie à ton image, quelle humilité rabaisserait mon visage, quelle nudité me relèverait vers toi, quelle exoraison gronderait, pleine de foudre, du bas de ces lieux, où, tournant parmi la poudre, je suis le pivot de la meule qui va moudre. Il le faut ainsi, ô sans être, que tu sois. Ne détrompe pas, ne te résous pas en bout, ne disparais point, ne transparais point, ne joue ni confond jamais le seul à toi qui se voue. Tu es tout d'un coup, voici tout ce que tu es. Ton essence vraie est ta multiple hypostase, tes noms, tes tribus, l'orbe que ton orbe écrase, contemplation qui se résout en extase. Tu es lourd de science et plus léger que fumée, pénétrant et fin comme esprit et les échos. Tu es riche dans, ô premier-né du chaos. Tu sais discerner l'imbécile et le héros, glacial, confortant, diviné, divinateur, un, exorbitant, contemplé, contemplateur, en qui tout s'anime, en qui tout revient et meurt, étendu, nombreux, parfum, musique et couleur, double, dôme et dieu, temple formé de ta voûte, triple, centuplé du lieu des 10 000 routes, père soucieux de tous les êtres qu'envoûte ton globe parfait, profondément dur et beau. Si beau, si parfait à l'opposé de l'humain que je suis encore, que nul de mes paroles n'atteindra jamais la 9e des coupoles, ni l'espace bas où les lourds génies s'envolent. Plus haut. Piétinons l'esplanade ordonnancée, portons haut le nombre et les justes tourbillons, étreignons le cercle, happons l'azur, assaillons plus haut, sans espoir, il n'y a pas de rayon. Pour aide, voici, les 9 brasiers nous affleurent, voici les 3 monts et le renouveau des heures. Recommencement, forte vie intérieure, comme eux flamboyons, dévorons les chairs et sangs. Il faut s'attiser, grésiller, brûler au rouge, pénétrer son cœur du pic de profonde gouge. Les feux verticaux à travers quoi le ciel bouge portent au niveau de l'horizon plein des vents. Suis-je ici vraiment? Suis-je parvenu si haut? Paix grande et naïve, et splendeur avant-dernière, touchant au chaos le ciel qui plus n'espère, se referme et bat comme une ronde paupière. Comme le noyé affleurant l'autre surface, mon front nouveau-né vogue sur les horizons, je pénètre et vois. Je participe aux raisons, je tiens l'empiré et j'ai le ciel pour maison. Je jouis à plein bord de tous mes esprits, j'irrite mes sens élargis au-delà des sens, plus vite que l'esprit, que l'air. Je me répands sans limite, j'étends les deux bras, je touche aux deux bouts du temps. Voici la rançon et la médiation rude. Tombe le torrent des pleurs et des gratitudes. Le ciel renversé pleut sur moi sa plénitude, toute l'abondance a cataracté sur moi. Vertige alourdi de chair et de sang terrestre, inanité de voler si haut sans appât, vautour prise au bleu, agonisant sans trépas, couper les liens, un géant n'oserait pas. Et puis tout s'écoule, et puis tout est clos et morne. Le jaune reprend, je suis à genoux, à plat ventre, les yeux lourds, les yeux vides sans éclat, l'esprit épuisé, le cœur essoufflé d'un glas. Véritablement, il a été que tu fusses, Shanti souverain, Seigneur ciel au temple clair, qu'on dit étreignant le bol renversé de l'air, de ta majesté d'azur, de jade et de fer.
Mesdames, Messieurs, vous avez pu écouter une émission de Pierre Barbier et André Franck, consacrée aux quatre éléments et présentée par les auteurs. Voici le monde. Aujourd'hui, la conquête de l'air. Participaient à l'émission Alexandre Arnoux de l'Académie Goncourt, Jacques Bergier, Paul Chollot, Pierre Duverger, chef du Centre météorologique d'Orly, Pierre Delatille et André Virel. François Chaumette et Bernadette Lafont nous ont lu les textes de Guy Marchi, Victor Ségalen et Pierre-Jean Jouve. Assistante de production, Marie-Denise Vanda. Production et réalisation, Pierre Barbier.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur la chaîne nationale le 15 avril 1956. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique « Les nuits de France Culture ».